Bienvenue sur l'antenne de Radio Immo, ravi de vous retrouver ici à la maison de la chimie, pardon, excusez-moi, pour vous faire vivre cette 12e édition du Speed Dating de l'immobilier, rendez-vous incontournable qui réunit à la fois des promoteurs, mais aussi des bailleurs sociaux, des élus, des acteurs de la ville et surtout des partenaires financiers autour d'un enjeu majeur finalement, qui est celui de faire sortir des projets, et cela malgré un marché sous tension, un contexte délicat, et ça reste un doux euphémisme. Pour cette nouvelle interview, m'a rejoint à cette table Auriane Leroy-Liberge, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes directrice de Sully Immobilier, merci, et direction régionale Région Centre. Également ambassadrice de votre groupe pour tout ce qui concerne la RSE et l'innovation, présidente FPI Centre Val-de-Loire, référente du réseau femmes du MEDEF Centre Val-de-Loire. Comme ça, on est tout à fait complet. Avant d'entrer peut-être dans les grands enjeux qui nous concernent du secteur, est-ce qu'on peut présenter tout simplement Sully Immobilier, une entreprise familiale créée il y a maintenant un peu plus de 30 ans.
Sully Immobilier a été créé par mon père et je travaille avec mes deux frères. Mon frère aîné est le directeur général de tout le groupe et en région, on a des patrons en Aura, Occitanie, Aquitaine, Île-de-France et donc moi dans la région centre.
C'est facile de bosser en famille ?
Alors, je dirais qu'on a été élevés comme ça. Ouais. Donc, depuis toute petite, j'entends au repas du samedi midi des discussions sur la vie, le boulot, la politique, tout, la religion, enfin, tous les sujets qui passent. Et donc, on a une culture de la discussion, culture de la communication, du travail. Et c'est, voilà, ça fait partie du package de l'éducation.
Vous êtes présent sur tout le territoire. On a parlé des régions, évidemment, mais ça représente combien de collaborateurs, le nombre de logements aussi, peut-être, que vous sortez chaque année ?
Nous sommes environ 40 collaborateurs. On construit à peu près 450 logements par an, un peu moins ces derniers temps. Et disons qu'on a un ADN porté sur l'audace, l'agilité, la résilience, l'humanisme.
Ce sont des thématiques qui sont évidemment fortes. Pour préparer cet entretien, je me suis permis d'aller faire un tour sur votre profil LinkedIn et d'aller lire quelques posts. Et le dernier en date, vous écrivez « Derrière chaque logement qui manque, il y a une vie en suspens. Et derrière chaque cliché sur les promoteurs, une crise qui s'aggrave. » Pourquoi ce besoin pour vous de prendre la parole publiquement sur cette question justement de l'image que l'on peut avoir du promoteur ?
Alors moi, je suis architecte et avant, donc j'ai exercé pendant plusieurs années et je suis tombée du côté obscur de la promotion, quelques années après avoir vraiment exercé mon métier. Et donc tout mon écosystème a été un peu interloqué quand je leur ai dit que je faisais la promotion immobilière. Et je vois qu'il y a des images qui perdurent alors que je ne roule pas dans une voiture gigantesque, je ne pars pas en vacances à New York tous les week-ends. Et même c'est très loin, ma mission de base, c'est de loger des gens et de la meilleure façon qui soit. C'est ça mon objectif. Mmh. Et ce n'est pas de m'enrichir sur le dos des autres. Déjà, avoir un bilan qui tient la route, c'est compliqué jusqu'au chantier. Donc je me bats contre ces idées parce que les gens qui pensent qu'on fait des marges à deux chiffres, alors que déjà quand on est au moins à 5%, on est content.
Mmh. Et pourquoi finalement cette mauvaise image, entre guillemets, elle perdure comme ça dans le temps ?
Mais comme dans tous les métiers, il y a un éventail. Ouais. On dit pour les architectes, il y a 30 métiers dans l'architecture. Mmh. Dans l'immobilier, il y en a sûrement aussi une trentaine. Il y a les agents immobiliers, les brokers, les commercialisateurs, il y a un peu tout. Et peut-être que des gens, des citoyens, ont eu affaire à des arbres qui ont caché la forêt. C'est-à-dire que dans la forêt, il y a des gens très bien, ouais, dont j'espère en faire partie. Ouais. Et c'est comme... je vais pas comparer d'autres métiers, mais il y a des... Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que notre objectif à nous, chez Sully Immobilier, c'est de construire le mieux possible, loger les gens le plus possible et... Ça nous fait du mal, en fait, de critiquer ce métier. On a un savoir-faire, de terrain. On sait aussi bien parler à un artisan qu'à un élu. On fait des projets bancaires, architecturaux, commerciaux. On a affaire à toute la panoplie, toute la filière.
C'est bien que vous citiez toutes ces personnes-là, parce que dans un contexte, on peut dire, de défiance généralisée, comment est-ce qu'on arrive à redonner confiance, justement, aux citoyens que vous croisez, aux riverains, aux élus, aux artisans. Comment est-ce qu'on fait ?
Alors, je pense beaucoup à « je dis ce que je fais et je fais ce que je dis
ouais. ».
Et j'invite mes élus à visiter mes chantiers, j'invite des associations, je fais des rétextes, des retours d'expérience. Donc je fais vivre un écosystème de terrain pour leur montrer ce que je fais, là où je vais aller, et je fais la preuve par l'exemple. Mmh. Et il n'y a que ça qui marche.
Et vous arrivez à garder le peps, l'énergie nécessaire, dans un contexte que beaucoup quand même décrivent comme étant pour le moins morose ?
Alors mon peps à moi, elle tient dans l'innovation, dans la relation humaine. Et mon dada, c'est l'économie circulaire, par exemple.
Okay.
Et pour moi, c'est un outil dans lequel on est obligé de plonger parce qu'on a besoin, pour la planète, de construire mieux, décarboné, avec moins de déchets ou en utilisant ces déchets en ressources. Et travailler ces nouveaux modes de faire, ça me passionne.
Alors justement, vous êtes ambassadrice hein, RSE et innovation pour votre groupe, coprésidente du groupe de travail économie circulaire de l'ITC. C'est quoi les leviers concrets qui peuvent être activés pour accompagner justement cette massification qui est souhaitée et souhaitable du réemploi, de l'économie circulaire également dans le bâtiment ?
Alors dans la région centre, on a créé un annuaire. C'est la première fois que j'ouvrais et quelques autres, dont la FFB, Envirobat, des bureaux d'études, on a mis en commun notre carnet d'adresses pour que les gens qui ont un projet savent à qui s'adresser, comment s'y adresser. Et donc déjà, il faut que les artisans s'inscrivent dans ces annuaires. Il faut que les artisans se forment. Il faut que les architectes apprennent l'éco-conception. Il faut que nous, maîtres d'ouvrage, on regarde la ville différemment. Il y a un exemple que j'adore citer, c'est par exemple un garde-corps. Si on le dépose ou qu'on le met dans un autre sens, oui. Ça devient un rack à vélo. Et en fait, c'est une façon de penser la ville. Oui. Et on a un champ, un terrain de jeu gigantesque.
On ne jette pas, on réutilise différemment.
Voilà, on réutilise, on réemploie, on transforme. Mais il y a une nouvelle façon de voir la ville. Et là, on a vraiment un chemin à faire.
On entend dire parfois que l'économie circulaire, c'est bien, mais c'est un peu compliqué, c'est trop coûteux, c'est même carrément trop lent. Vous répondez à quoi
Mais malheureusement, je suis d'accord. C'est que c'est plus coûteux parce que la dépose soignée est coûteuse. Et ça prend plus de temps. Soit une grue grignote le bâtiment et ça se fait en quelques semaines, soit on va déposer les faux plafonds, on va les entreposer, les prises, les planchers. Et tout ça, ce sont des matériaux qui peuvent avoir une seconde vie, voire une troisième vie. Mais la dépose soignée et le stockage, c'est du temps, du savoir-faire et des lieux de stockage. Ce qui nous manque, ce sont des lieux de stockage. C'est de la matériothèque et aussi la mobilité entre là où est la ressource et là où elle va aller ensuite.
Je le disais en introduction, vous êtes également référente du réseau femmes du MEDEF dans le centre Val-de-Loire. Vous portez donc quelque part la voix des femmes aussi dans ce secteur. Votre parcours de stagiaire à directrice régionale est aussi assez emblématique. Est-ce que vous sentez que quelque part les lignes bougent et que les femmes sont peut-être un peu plus concernées par ces métiers, qu'on vient les chercher ou qu'elles-mêmes se lancent dans la profession ?
Alors je prône plutôt la mixité hein, dans ces métiers. Mmh. Et je pense que les hommes ont à ouvrir un peu les yeux sur laisser la place aux femmes et qu'elles s'expriment différemment, qu'on a besoin d'être entendues avec plus de douceur et que travailler avec des femmes, ça apporte un autre point de vue qui est aussi riche. Mmh. Donc je pense qu'il y a effectivement un peu de mentalité à faire évoluer, mais de deux côtés.
Ouais.
Pour les femmes, c'est aussi doser. Et dans le mandat du MEDEF, c'est aussi prendre la place dans des mandats pour être plus représentatif. Et ce que j'adore dans ce réseau des femmes du MEDEF, c'est qu'on a affaire à des femmes extraordinaires. Et je les découvre chaque jour, et c'est une vraie joie.
Et en termes de formation, est-ce qu'on arrive à attirer les jeunes femmes justement vers ces métiers-là ?
De la promotion
ouais.
Ou de la technique, parce que le grand sujet du moment, c'est les filières un peu scientifiques. C'est vrai que c'est moins simple, mais on a vu qu'on avait des femmes extraordinaires et qu'il ne faut plus que leur ouvrir la porte.
Et qu'elles ne se mettent pas des freins, quoi.
que personne ne se mette des freins.
Dans votre poste, vous posez une question qui est très directe. Quels sont aujourd'hui les vrais blocages à la relance du logement? Est-ce que vous avez vous-même la réponse à cette question-là?
Je pense déjà que si les PLU étaient utilisés à plus que 60% de leur capacité, ça ferait du bien.
Oui.
Je pense aussi aux citoyens qui doivent accepter que densifier la ville, c'est aussi laisser la ville à la ville et la campagne à la campagne. Et ça permet de lutter contre le ZAN et l'étalement urbain. Et ça passe aussi par communiquer entre nous pour réduire les coûts.
Et au niveau des législateurs, est-ce qu'il y aurait des mesures comme ça qui pourraient être débloquées?
La simplification,
ouais.
Stopper les normes, arrêter de vouloir courir sur la RE 2025, RE 2028 ou RE 30X. On est déjà ceux qui construisons les meilleurs du monde. La France construit mieux que tous les autres pays. Donc on est déjà précurseurs, pionniers, ultra performants. Calmons-nous là-dessus. Laissons aux artisans le temps de s'adapter à ces nouveaux modes de construction. Et il faut laisser vraiment 10 ans entre chaque norme et pas quelques années. On a besoin de stabilité, de temps long et de confiance.
Temps long, stabilité et confiance. Un grand merci à vous d'avoir gentiment répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci d'avoir été présente. Merci également à vous de nous avoir suivis. Cette émission est disponible dans quelques instants en replay depuis l'application ou également notre site internet Radio Immo. Nous, on se retrouve dans quelques instants pour une ultime interview. À tout de suite.